On va maintenant entendre l'interview du beatmaker toulousain Prolétaire. Alors salut Ben, comment tu vas ?
Bah écoute, ça va pas mal. Dans une période un petit peu particulière, comme tu le sais, comme chacun sait. Mais ça va.
On fait avec.
On fait avec, on s'adapte un peu et surtout on passe beaucoup de temps en famille avec les enfants quoi.
Donc c'est finalement une source d'opportunité aussi.
Ouais. Donc on essaie de trouver le positif dans tout ça. Après, je vais pas te mentir non plus. Il y a des moments où déjà les tournées, partir en date et tout, ça manque et ça participe d'un équilibre, surtout quand t'es des mecs comme moi qui passent beaucoup de temps au studio. Et puis quand t'as une vie de famille à côté aussi, c'est les moments où tu pars en date et où tu fais les tournées, c'est souvent des respirations dans ta vie aussi, tu vois, de famille et tout, donc c'est super, c'est toujours bon à prendre, donc là ça manque clairement, mais l'un dans l'autre on n'est pas les plus à plaindre quoi, voilà.
Ouais, de toute façon on est tous pressés que cette crise justement du coronavirus soit finie et je te remonterai ça à la fin. Alors donc pour présenter un petit peu aux auditeurs, donc tu t'appelles Prolétaire, tu es un beatmaker producteur toulousain, tu sors ton premier EP Curses from Past Times en 2011, c'est d'ailleurs avec la chanson April Shower dessus que je vais te découvrir, et puis ce sera Feeding the Lions en 2013, puis Rookie EP en 2015, Destiny en 2016, Life Playing Tricks en 2017, et le dernier en date c'est Bubbles en 2018. Donc tu allies différents styles comme le hip-hop, le swing, le jazz pour ne citer que, tu cumules plus de 30 millions de vues sur YouTube uniquement. Est-ce que tu es d'accord avec cette description ou pas ?
C'est complètement précis et exact.
J'ai bien fait mes recherches, je suis assez content.
Non, c'est très bien, la discographie est parfaitement respectée, les dates aussi, on est bien. Si je voulais être tatillon, je te dirais qu'en vérité, je cumule plus de 30 millions de vues sur YouTube, parce que 30 millions de vues, c'est sur ma seule chaîne à moi, et c'est sans compter les chaînes qui ont pu partager, ben, notamment April Showers, qui a fait, qui a dépassé 11 millions de vues chez Mr. Suicide Sheep. Bon, bref, mais c'est de la coquetterie, quoi, donc ouais. On va pas rentrer tôt. C'est pas très intéressant de creuser les chiffres.
Ouais, parce que c'est vrai que de toute façon, en regardant justement sur ta chaîne, j'étais des fois un peu surpris parce qu'après le shower, j'avais justement l'impression qu'elle était beaucoup plus connue que ça. Mais c'est vrai que c'est d'autres chaînes qui ont profité aussi un petit peu de ça, quoi.
Ouais, non, c'est ça. Non, parce que c'est ça. Si tu vas sur ma chaîne, elle a peu de vues en comparaison, mais elle a été repartagée par deux chaînes et en cumulé, elle a quasiment 20 millions de vues sur ces chaînes-là. Quoi. Et puis d'un autre côté, ça reste, enfin, on en reparlera, je sais pas, j'imagine, mais bon, évidemment, après shower, ça reste une chanson essentielle et capitale pour moi, quoi.
C'est vrai que j'avais beaucoup apprécié cette chanson et je l'écoute encore de temps en temps avec grand plaisir. Et d'ailleurs, ce nom de Prolétaire ou Prolo, comme tu disais pour tes potes, ça vient de quoi ?
Alors, Prolétaire, écoute, c'était tout simplement quand je cherchais un blaze au départ, j'ai cherché quelque chose qui pouvait me correspondre et qui pouvait sonner aussi, parce que il y a toujours cette histoire, il te faut un nom à la fois qui puisse avoir un peu de sens pour toi, mais dans le même temps, qui puisse avoir un côté, je sais pas, qui est une sonorité, quelque chose que tu vas apprécier aussi. Donc, tout simplement, moi, à ce moment-là de ma vie, c'était ça, je bossais à l'usine, j'avais une vie d'ouvrier, une vie de prolo, une vie de mec d'en bas, enfin, donc, c'était ma réalité. Et vu que moi, je suis quand même pas mal, je suis un mec qui a été très, très marqué par toute l'idéologie marxiste et derrière Bourdieu et tout ça, si on va un peu parler sociologie ou quoi, mais donc c'est quelque chose, par exemple le système des classes sociales et tout ce système de hiérarchisation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui est un des prismes à travers lesquels je vois la réalité. Donc finalement c'est un nom qui, je sais pas te dire comment le déclic m'est venu, mais c'est en tout cas dès que c'est venu, je pense que je me suis dit ouais, ça c'est sûr, ça va être mon blague.
Tu as trouvé ta réalité dans ce nom?
Ouais, complètement, enfin je sais pas, que ouais, ça s'est imposé à moi, comment.
Pour présenter l'artiste, on va s'écouter son morceau phare April Showers, paru sur Curses from Past Time en novembre 2011. We'll be right back. C'était April Shower de Prolétaire. On reprend l'interview. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Parce que j'ai cru voir dans ta bio que tu avais commencé en tant que guitariste dans des groupes de rock.
Ouais, c'est parfaitement vrai aussi. Et moi, j'ai démarré très jeune. Oui, si, j'ai démarré la guitare à, je sais pas, 8-9 ans. Et j'ai jamais... Après, j'ai jamais lâché. C'est pas tout à fait vrai. Parce que j'ai une période où, au tout démarrage, quand j'ai démarré la production, j'ai un petit peu mis ça de côté. Mais j'y suis revenu très largement. Mais sinon, oui, j'ai démarré. J'ai fait ma vie, tu vois, toutes les années collège, lycée, vie de groupe. Donc, j'ai beaucoup joué dans plein de groupes, des trucs locaux, fait des tremplins. Enfin, voilà, tu vois, à partir de 12-13 ans, ma vie, c'était déjà d'aller jouer les week-ends à droite à gauche, jouer dans un groupe avec mon frère qui est batteur. Tu vois, lui, il est plus grand que moi, il est plus âgé, donc on prenait sa bagnole et puis on allait jouer aux quatre coins du département, de la région. Et voilà, donc c'est ça. Moi, j'ai fait mes armes là-dedans, dans le rock, le métal et en tant que guitariste. Hein. Et je pense que même si je suis devenu producteur aujourd'hui et que, et évidemment, ça fait partie de mon identité, je reste quand même très... Mon ADN, elle est quand même... Ouais, mon ADN, c'est celle d'un guitariste, c'est celle d'un mec qui a été élevé au... Même si ma culture musicale, elle est très très large aujourd'hui, encore plus, évidemment, en étant producteur, si t'es pas curieux de tous les styles, et je pense qu'il faut que tu fasses autre chose. Mais reste que mon éducation, le départ, le démarrage, c'est la guitare et le rock, quoi, et tout ça, donc ça fait partie de mon ADN.
Et qu'est-ce qui t'a fait prendre justement ce tournant musical, parce que là maintenant t'es plus orienté hip-hop, jazz, swing, alors que t'étais plutôt rock avant, qu'est-ce qui t'a fait justement ce déclenchement?
Écoute, c'est les accidents de la vie, je dirais, parce que ou les heureux hasards, hein, finalement, parce que tu vois, en définitive, je sais pas s'il faut, si j'avais continué à jouer du rock, j'aurais peut-être jamais fait de carrière, je sais pas ce que je serais devenu concrètement. Mais ouais, en fait, moi, si tu veux, je suis parti de Toulouse, moi je suis toulousain, donc au départ, et je suis parti de Toulouse à la vingtaine pour suivre une nana, évidemment, et du coup, je suis parti en Strasbourg dans un premier temps, et arrivé là-bas, donc c'était la première fois de ma vie, si tu veux, que je me retrouvais dans une config où j'avais pas de groupe, où j'étais dans un spot où, bon, tu vois, dans la région toulousaine, je connaissais la plupart des, j'avais du réseau en tant que musicien et tout ça. Et là, je me suis retrouvé complètement frais, complètement neuf. Et j'avais déjà démarré. C'est une période de transition, mais tu sais, les choses se mettent en place souvent dans la vie, les planètes s'alignent sans que tu saches trop pourquoi, mais les choses se mettent en route. Et là, en fait, c'était ça, quoi. Avant d'arriver sur Strasbourg, moi, j'avais commencé déjà un peu à m'intéresser, vite fait à faire, tu vois, pas du home studio, mais j'avais un enregistreur, je faisais des démos, j'avais commencé à bricoler un peu avec des synthés, je m'intéressais de plus en plus à tout ce qui était trip-hop au démarrage, à l'électro. Et par ricochet, quand je suis arrivé à Strasbourg, les premiers mecs que j'ai rencontrés à la fac, bah, c'était des mecs qui rappaient un peu, qui étaient dans le rap. Et ça, ils ont participé, j'en place une pour mon pote Erkan, parce qu'on est toujours très très potes. Et le démarrage de Prolétaire, c'est clairement avec ce gars-là. Et ça a été un des premiers gars qui a rappé sur des instruments à moi. Mais en tout cas, moi, ça a été avec ces gars-là qui m'ont, si tu veux, foutu le pied à l'étrier, qui ont fait ma culture hip-hop un peu aussi. Parce que si tu veux, moi, à ce moment-là, faut comprendre que le sampling et tout ça, je comprenais à peu près que dalle. Si tu veux, j'ai eu un déclic. Cette musique-là, elle m'a parlé à un certain point. J'ai dit, putain, c'est incroyable parce que ça me sortait tellement de l'univers des guitares et tout ça. Et c'était une autre approche pour faire de la musique. Et tu pouvais être un homme orchestre. Moi, c'est ça que j'ai aimé direct. Moi, j'avais ce truc-là où j'étais quand même compositeur et tout. Et le fait de pouvoir être chez moi tout seul et pouvoir finalement faire un titre du début jusqu'à la fin, le produire entièrement et que ça sonne direct de chez moi, c'est un truc qui m'a de suite parlé. Ça.
C'est le grand avantage de la MAO, quoi.
Ah, ben ouais. Enfin, c'est un truc pour les mecs, les maniaques du contrôle. Et puis, les mecs qui aiment que ça se fasse quand ils ont envie, de la façon dont ils veulent. Bah, c'est un truc, ça répond à toutes tes attentes, quoi. Parce que la vie de groupe, c'est quand même un autre délire. Il faut que tout le monde soit d'accord. Tu fais des morceaux, il y a des répétitions. Enfin, c'est génial comme truc quand t'arrives à faire un groupe qui tourne et tout. Mais c'est une logistique un petit peu différente, un petit peu plus lourde.
Ouais, contraignante.
Voilà, contraignante. Bon, et si tu veux, donc moi, je me suis trouvé là-dedans parfaitement comme un poisson dans l'eau. Ça correspondait parfaitement à ma façon de voir les choses. Et aussi la musique, quoi. C'est qu'en fait, je suis tombé dedans, tout simplement. Tu vois, la prod, d'un coup, ça m'a parlé. Au début, je comprenais pas. C'est-à-dire, je me disais, merde, comment c'est fait cette musique? Parce que le sample et tout, j'avais pas, tu vois, je savais pas, je connaissais pas du tout, en fait, le sample. Et avec ces gars-là, je m'y suis mis. Enfin, je suis venu, j'ai acheté mes premières machines. Et puis, tu vois, j'ai chopé le virus. C'est devenu mon obsession, quoi. Voilà.
D'ailleurs, en parlant de ce processus créatif, il se déroule comment pour toi?
Bah écoute, pour Prolétaire en tout cas, il y a tout un travail déjà au départ qui est fait. Bon, aujourd'hui, moi tu vois, ça fait quand même plus de 10 ans que je fais ça de façon, on va dire, quasi professionnelle. Donc, un producteur comme moi, quand tu samples énormément et que ta musique est quand même beaucoup basée sur ça, bah déjà, le premier travail, c'est diguer. Donc, choper des disques, ou enfin bon, même si tu samples sur YouTube, pourquoi pas. Hein, moi, j'ai des potes qui samples sur YouTube, c'est pour en discuter, mais moi, je sample exclusivement sur vinyle.
Pour la qualité, justement.
Ouais, puis pour le délire, quoi. Parce parce que j'aime ça, quoi. Tu vois, ça fait partie de mon délire. Je sais pas, j'aime avoir l'objet, le passer dans ma machine, le numériser moi-même. Et je sais pas, tu sais, il y a un délire où ça rentre dans une machine, de l'analogique et tout. Bon. C'est des petites coquetteries de producteurs, ça. Mais ouais. Moi, ça fait partie de mon process. Et donc, ça départ toujours comme ça. Maintenant, aujourd'hui, donc, j'ai une énorme synthothèque sur mon ordinateur, toute ma collection de disques, tout ce que j'ai numérisé. Et donc, après, ça part de, voilà, choper un bout de sample, quelque chose qui va me parler, et puis démarrer, commencer à construire un petit peu un rythme autour. Donc, le process, c'est assez basique, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire. Mais après, là où la diff se fait, peut-être par rapport à d'autres, enfin, en tout cas, là où je crée ma singularité, c'est pas tellement dans la façon de faire ou dans les outils que j'utilise. Après, c'est plus dans la façon que, comment tu vas amener ton truc et la sonorité que tu vas créer. Enfin, tu vois, je pense que chaque producteur, si tu prends notre gars, qui sont un petit peu proches de moi en termes de sonorité, je pense à Oursin Plus, je pense à Cognitif, à ce genre de gens en France. On a tous, enfin, en tout cas, moi je considère que une c'est patte. Ça qui fait, ouais, une patte, une signature à un moment donné. Et si tu es producteur aujourd'hui, les producteurs poussent comme des champignons au pied des arbres. Donc, si tu veux te démarquer un peu, t'es obligé, sans une signature, tu te démarqueras jamais. Et donc, c'est dans ce côté-là, c'est dans comment tu, avec finalement plus ou moins les mêmes outils, comment tu trouves à imprimer ta patte à toi, ta marque dessus. Voilà. Donc, le process, après, je te dis, moi, je prends un disque, je sample, je vais découper ça dans ma machine, je vais rajouter plein de petits morceaux de sample que je récupère, un petit morceau de cuivre de là, un petit morceau de voix d'ici, et je mets tout ça au tempo, j'accorde tout ça, et derrière, je fais ma petite tambour, je rajoute ma basse, je crée ma basse, mon rythme, et c'est là finalement que quand tu mélanges un peu tout ça, que tu te rends compte que tu fais les choses un peu à ta façon, en tout cas que ça sonne comme toi à un certain point.
On va s'écouter un extrait d'un morceau de son dernier album, Bubbles, paru en juillet 2018. Ce sera avec le titre What Lana Says. C'était What Lana Says de Prolétaire. On y retourne. Et à ton avis, c'est quoi qui fait que ça sonne comme toi, ou plutôt que ce soit quelque chose de générique? C'est justement que tu as une sorte de manière de traiter le son un peu différente des autres? Le mastering peut-être sinon?
Non, je pense pas que ce soit un truc technique, sincèrement. Enfin, alors évidemment qu'il y a dans le process, il y a des passages techniques qui font que si tu fais plutôt ça comme ça, ça va donner telle sonorité et ça influe sur ton son. Mais je pense qu'à un moment donné, créer sa signature sonore, c'est pas tellement une histoire de technique. Enfin, en tout cas, je pense que il faudra en parler avec d'autres producteurs, mais j'imagine qu'à un moment donné, déjà, tu le cherches pas vraiment au départ, je crois. Ça t'arrive pas par accident, mais il y a un truc qui se crée et c'est un peu malgré toi, à un certain point, j'ai l'impression. Alors, comment ça se crée? Qu'est-ce qui fait la diff et qu'est-ce qui fait ton son à toi? Moi, j'aurais tendance à te dire, alors c'est peut-être un peu ésotérique, mais que c'est ta sensibilité artistique. C'est vraiment, pour le coup, chez les producteurs, au-delà des outils, de la technique, là, c'est vraiment le côté cœur et le côté intangible qui va parler pour moi, tu vois, sur ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu peux vraiment
expliquer,
calculer. pu l'expliquer en disant oui, mais c'est tel compresseur, c'est telle façon de faire avec tel EQ, j'en sais rien, ou telle façon de découper tes samples, ou tel logiciel, hein, parce qu'en définitive, ça paraît, je pense que n'importe qui, avec n'importe quel logiciel, peut arriver à du résultat. C'est la musicalité, c'est ce que tu mets dedans, c'est ta vision. Donc après, j'ai envie de te dire, ce qui fait la diff, c'est le mec lui-même, quoi. C'est vraiment le type qui va agiter tout ça derrière. Après, et je pense que.
C'est peut-être aussi ton oreille, justement, quand tu as une sonorité qui te plaît bien, et puis tu enchaînes, et puis voilà, quand tu le fais de manière soit inconsciente, soit consciente.
Exactement. Non, mais c'est ça, c'est l'oreille. En réalité, tu résumes ça bien. C'est l'oreille. Chacun a une oreille unique, et la qualité, ou en tout cas la singularité de ton oreille, disons ça, va créer ton son. C'est ça. En fait, toi, tu vas entendre quelque chose que les autres n'entendent pas. Je le dis parce que, pas pour parler de moi de façon prétentieuse ou quoi, mais moi, je l'entends sur les autres producteurs, tu sais. Quand il y a un mec que j'adore, que j'écoute un truc à lui, où je me dis, ah putain, le mec, il est trop fort, c'est trop bien. Et souvent, c'est très rare que ce soit un truc bon. Évidemment, on est producteur, des fois, on va s'astiquer sur des trucs de technique pure et dure, mais malgré tout, moi, c'est quand même pas ça qui me parle essentiellement. Souvent, quand je vais vraiment aimer un mec, c'est parce que je me dis, ah putain, c'est sa vision. Je vais être envieux de sa vision plus que de sa technique. Et je me dis, putain, le mec, il a pensé à des trucs. Enfin, en tout cas, je me dis, ce mec-là, il m'intéresse parce qu'il a une vision, une façon de voir la musique. Il a su imprimer cette espèce de caractère à son son qui est unique. Et ça me parle, quoi. Chaque fois que ça m'arrive, c'est des mecs où je me dis, c'est vraiment le mec qui imprime sa patte, quoi. Voilà.
Et je voulais te demander aussi concernant donc, le matos que tu utilises, t'es quoi? T'es sur une MPC, ce genre de choses?
Ouais, bah, j'ai été beaucoup sur les MPC. Alors, moi, je suis un gros fan de MPC. Moi, j'en ai 3 ou 4 à la maison. J'ai dépensé pas mal d'argent pour acheter une 2000 XL que j'ai tout remonté, parce que c'est à l'époque tu pouvais pas mal rajouter de composants, des sorties, des cartes d'effet, tout ça. Ça me parle pas mal comme délire, donc je produis plus sur les MPC. Je continue de sampler sur la MPC parce que pareil, j'aime bien le grain, j'aime bien le délire de rentrer ça dans la MPC parce que ça fait partie des choses que j'aime faire. Mais non, je produis plus vraiment sur la MPC. Maintenant, je suis sur Ableton. Je produis essentiellement sur Ableton et j'ai envie de te dire pareil, hein, j'ai pas d'outils. J'ai sensiblement les outils que n'importe quel gars aujourd'hui.
Donc t'es même pas avec un clavier MIDI, t'es vraiment à la souris et Ableton, c'est tout?
Ah non,
si, quand même.
Après bien sûr, j'ai des claviers MIDI, j'ai des pads, j'ai des APD, Apache, tout ça. Après t'as des carsons. Après en termes de hardware, j'ai pas énormément de trucs hardware, enfin j'ai pas de gros synth hardware, j'ai un Juno, mais pas l'original là, les Roland, les rééditions qu'ils ont fait. J'ai un petit Rhodes, j'ai un Rhodes en hardware, voilà. Et puis après des MPC, mais non, après oui, évidemment, clavier MIDI, mais c'est vrai que je précise pas parce que je me dis...
c'est une évidence d'avoir un clavier MIDI, quoi.
Ouais, c'est ça, okay. Exactement. Le clavier MIDI et un pavé, un truc de pad au minimum, pour moi, sans ça, je suis un peu à poil, ouais.
Je voulais aussi te demander, c'est quoi tes influences musicales majeures? Donc, tu m'avais parlé de Arsam Plus tout à l'heure, etc. Je présume aussi des J.O.J., ouais. C'est quelque chose qui est quelqu'un que tu apprécies aussi?
Grave, mais que j'apprécie en plus humainement aussi, c'est un bon pote. Donc là, tu me prends par les sentiments. Non, mais... Ouais, après, bon, si tu veux parler des influences qui sont dans la scène, quoi, tu veux dire dans le beatmaking et tout.
Pas forcément, tu vois, genre si par exemple tu as envie de me parler d'un groupe de rock que t'adores, ou même de vraiment de vieux jazz, ou même voilà, de blues, n'hésite pas, enfin voilà, tu m'en dis 3-4 vraiment qui sont majeurs pour toi.
Ah, écoute, putain, c'est très très dur, parce que j'ai sincèrement, c'est pas pour faire étalage, mais c'est
vrai. T'en as beaucoup, quoi.
Ouais, puis dans plein de styles, parce que je suis vraiment très, enfin, je suis bon public, je mange beaucoup de sons, et puis surtout, je suis super curieux de tout, dans tous les styles. Je peux me mettre, tu vois, donc moi, je viens des musiques un peu extrêmes, rock et tout, hardcore. Donc moi, tu vois, le hardcore New York est sympa, j'adore des groupes comme Bad Kid, du Refused. Bon, ça, c'est pour la partie vraiment hardcore. Après, en termes de, les incontournables, en termes de beatmaking, pour moi, ceux qui ont fait que je fais cette musique-là, c'est RGD2, Shadow, Wax Taylor et Blockhead, par exemple. Et après, dans des trucs plus récents, après tous les trucs de jazz. Alors moi, le jazz, le swing et tout ça, j'y suis venu par le sampling. Je n'avais pas la culture avant. C'est en étant producteur que je suis rentré dans tout ça. Mais aujourd'hui, évidemment, que les grands noms, les standards, Ella Fitzgerald, Count Basie, Errol Garner, Art Tatum, enfin, tout genre de gars, pour moi, Duke Ellington, évidemment,
c'est des monuments, quoi.
C'est des monuments. C'est tellement des trucs incontournables et tellement lourds. Enfin, tu sais, quand tu finis par sampler cette musique et par finir par te faire ta culture et tout, et la comprendre un peu, tout ce qui est Big Man et tout, faut se dire, à l'époque, en plus, les enregistrements, c'était quand même pas ce que c'était aujourd'hui. La qualité des icos, la qualité des mecs qui enregistraient, la qualité des gars qui composaient, c'est assez incroyable, quoi. C'est super riche, c'est super, super complet. Et puis après, en termes de beatmaking, ouais, je peux t'en citer plein, mais je vais te citer que mes potes, voilà, je te disais, Comotif, 2JEJ, je sais pas, Smokey Joe, Lantoulou, tout ce genre de gars. Bon, moi, je te parle que des Français en plus, après ouais. Bordeaux, en Belgique, notamment. La scène est très très riche, elle est très riche en Europe, elle est très riche en Grèce aussi, où il y a des mecs comme Kill Emile, Mononome, qui sont super. Donc j'ai envie de te dire, on a cette chance-là, où on a souvent, et comment dire, un train de retard, hein, comme tu sais, sur la musique américaine, anglo-saxonne et tout. Et aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai sur ce qui est musique électronique et beatmaking. Parce que bon, évidemment qu'on s'est tous inspirés, à un moment donné, des beatmakers hip-hop, des années 90 et tout. Mais aujourd'hui, je pense que il y a vraiment un son français, enfin en tout cas français. Il y a un son qui vient d'Europe, je pense qu'on n'a pas trop à rougir, enfin tout ça pour dire, il y a vraiment de la qualité. Mm. C'est une scène qui est super alternative, hein. Voilà, c'est une niche, hein. C'est quand même pas grand public.
Petit extrait musical avec It Don't Mean a Thing, sorti sur l'EP Feeding the Lions en avril 2013. C'était It Don't Mean a Thing de Prolétaire. On est reparti. Ça devient de plus en plus, enfin, du moins, je trouve que les marchés de niche deviennent de moins en moins de niche parce qu'en fait, avec Internet, t'en as beaucoup de gens qui vont chercher des choses nouvelles et ce qui était avant underground ne l'est plus tant que ça, quoi.
C'est pas faux. Alors, ça, c'est exactement bon. Avec Internet et puis, comment dire, la chute de l'industrie du disque, enfin, la chute des ventes en tout cas, ça a remis un peu d'équerre tout ça et ça a surtout, comment dire, rééquilibré le marché entre les indés et les majors parce que les majors étaient toutes puissantes jusqu'à la milieu des années 2000 et les indés, tiraient la langue. Quoi. Et aujourd'hui, les indés sont très très puissants et tu peux faire des carrières sans jamais avoir foutu les pieds dans une major. Enfin, ce qui est mon cas, par exemple. Hein. Mais même à plus gros niveau, à plus grosse échelle, il y a des gros artistes qui n'ont jamais foutu les pieds en major et ils n'en ont pas besoin. Ils sont leurs propres médias. Donc tu as raison, mais j'ai envie de te dire, après, je me méfie un petit peu de tout ça parce que ça ait porté les indés et que ça leur permet d'occuper une grosse partie du marché comme ça sans passer à la radio et tout, ça c'est mortel évidemment. Et je salue ça de toutes mes forces évidemment. Mais il y a une espèce de bulle dernièrement. Alors, sur tout ce qui est tu l'as vu, toutes ces chaînes, Chill Hop.
Lofi aussi, à toi, voilà, beaucoup en pompe.
Voilà, exactement. Bah, tu vois de quoi je parle. Donc. Mm. Et toute cette scène-là, alors c'est très très bien. Il y a des producteurs merveilleux dedans, sur les traces de JD. C'est devenu le. Si t'aimes pas JD, t'as raté ta vie. Et moi, j'aime bien JD. Et moi, je suis plus primo que JD pour le coup. On risque de faire râler certains. Mais reste que c'est super, mais il y a un côté bulle pour moi un peu, tu sais.
Tout le monde se met sur le marché, au bout d'un moment, les gens vont se lasser, voilà. Et ça va être un effondrement, quoi.
Exactement, ni plus ni moins. Voilà. Comme ça, c'est fait. J'ai envie de te dire, moi, j'ai vécu ça au début des années 90, quand j'ai acheté ma première guitare, et que tous les mecs de ma classe quasiment achetaient des guitares, et qu'au bout de 6 mois, il y en avait, elles étaient toutes dans le grenier, à part la mienne et peut-être celle de notre gars dans la classe, tu vois. Mm. Et je te dis ça, mais c'était vraiment ça. Ça poussait comme les DJ à la fin des années 90, tout le monde achetait des platines, et voilà. Voilà, et bon, alors il y a ceux, après, j'ai envie de te dire, le temps parle, quoi. Il y a ceux qui ont des choses à dire. Tu peux donner un Stradivarius à un pélo dans la rue, c'est pas forcément Mozart pour autant, quoi. Mm. Et encore encore une fois, c'est pas une façon de cracher dans la soupe, c'est super, tant mieux, ça permet à l'artiste de se révéler, tout ça. Hein. Et encore une fois, il y a vraiment de la qualité, je jette pas tout le monde. Mais je dis qu'il y a quand même une bulle, c'est une réalité. Il y a une bulle, et moi, personnellement, dans ma façon de voir la musique et de voir les choses, à un certain point, si tu veux, moi, tu vois, je fais pas non plus de la musique. Concrètement, le côté, je suis posé sur mon lit avec mon chant Angora et machin, bon, moi, tu m'as vu. Moi, au bout d'un moment, c'est le genre de truc, tu vois, ça fait un peu. Enfin, voilà, moi, je fais pas de la musique
pour étudier, quoi. Ou pour, un but spécifique, en mode générique, quoi.
Ouais, c'est pas de la musique d'ascenseur ou de la musique pour faire tapisserie. Enfin, tu vois, je fais de la musique pour occuper l'espace, à un certain point. C'est juste une façon de râler un peu, mais.
Après, quand tu vois une saturation du marché, une explosion du bulle comme ça, ça va toujours amener, bah, déjà, un effondrement d'une bonne partie des acteurs, mais ça va aussi emmener plein de sous-genres aussi, d'évolution du style musical, voire même un rapatriement sur d'autres styles qui ont amené à ce style musical à la base. Donc c'est aussi une source d'opportunité.
Mais bien sûr, non, mais c'est riche dans tous les cas, parce que, comme tu dis, ça intéresse déjà plein de gens à une musique qui ne se serait pas forcément intéressée, donc, et qui découvrent par ricochet des artistes qui sont super et qui restaient peut-être un petit peu sous le radar et qui, du coup, vont finir par se faire connaître et reconnaître. Il n'y a pas que du négatif, attention, je ne veux pas, surtout pas cracher. Là, je fais mon vieux con, hein, moi, tu vois, je suis un mec, voilà, moi, je vais avoir 40 ans bientôt, je suis un fossile, hein, par rapport à tous ces gars-là. Là, c'est des mecs entre 20 et 25 ans qui agitent cette scène-là, et c'est super. Et moi, je suis déjà un vieux con parce que ça fait 10 ans, j'ai 10 ans de carrière derrière moi, quasiment. Et je suis parti au tout début, moi, quand j'ai démarré, quand j'ai lancé Prolétaire, on était une poignée, oui, ici, on était quand même une poignée à être un peu, à faire parler un peu de nous dans cette scène-là. Donc voilà, je fais un peu mon
élitiste.
Con, hein, c'est ça. Ouais, voilà. Je fais le mec, hein, c'était mieux avant, on était moins nombreux c'est maintenant. Ça. Oh, super. En définitive, c'est très bien. Mais quand la bulle explosera, ceux qui doivent rester resteront et c'est très bien.
T'as tout à fait raison. Ouais. Je voulais aussi de revenir un petit peu plus à toi et ta carrière. Donc ton dernier EP, donc c'était Bubbles en 2018. Mais tu as également fait depuis, donc Please, 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 il y a un an. T'as fait aussi un remix sur Boggy Belgique. T'as fait un tribute à Fela, donc justement en afrobeat, si je dis pas de bêtises, Fela.
Ouais, okay. c'est ça.
T'avais fait aussi un live plutôt sympa, donc à distance pendant le confinement, intitulé Ballast Girls, et un mix il y a un mois. Donc j'ai regardé un petit peu ta discographie, tu sors en général un EP ou un album tous les 1 ou 2 ans. Doit-on s'attendre à une sortie prochainement?
Oui, monsieur. Yes. Alors attention, c'est toujours, quand je dis ce genre de choses, c'est toujours à prendre avec beaucoup de pincettes, mais oui, j'ai énormément de matière. Alors si tu veux, là je suis dans un délire où justement j'ai énormément de matière, beaucoup, et il faut que je trouve les meilleurs moyens de sortir tout ça, tu vois. J'ai réfléchi à plusieurs trucs. Déjà, en principe, je dois sortir une beat tape plus ou moins sur un label américain, Future Archive Records. Ça devrait sortir dans le meilleur des cas à la rentrée ou par là, septembre-octobre. Donc c'est le label, c'est un petit label, pareil, mais avec des mecs qui bossent bien et qui ont fait le dernier Blockhead. Ils sortent un album de Paul Dour, là, qui est sorti vraiment là. Donc c'est quand même, ils font de la qualité. Ils ont Arms and Slippers, qui, pareil, sont pas très connus, mais que j'aime beaucoup. Et du coup, donc il y aura ça. Et après, moi, de mon côté, oui, il va avoir fatalement, là, il faut que, si tu veux, moi, j'ai eu 2 années un petit peu, depuis la sortie de Bubble, ça a été 2 années un petit peu particulières, j'ai eu des petits soucis par rapport à des samples et tout ça, donc il a fallu que je gère tout ça.
Ah, les ayants droit?
Ouais.
Ah, merde.
Donc, j'ai eu des petites galères avec un gros label, bon, ça s'est réglé et tout, donc c'est bien, et maintenant, je peux avancer, mais voilà, forcément, ça a bouffé du temps, ça a bouffé de l'énergie, ça m'a même un petit peu foutu à l'arrêt pendant un certain temps, parce que ça casse un peu le moral, un peu, mais voilà. J'ai beaucoup de matière, j'ai beaucoup de morceaux. Donc là, en ce moment, il faut s'attendre aussi dans les mois qui viennent à ce que je fasse plus de collabs que j'ai jamais faites. Et ça a déjà démarré. Là, je bosse pas mal. J'ai commencé à bosser un peu. Alors, je sais pas trop si je peux le dire en vérité, mais.
Tu veux comme tu le sens. Si tu n'as pas envie de le dire, tu dis pas.
Non, mais j'espère. Il ne devrait pas m'en vouloir que je le dise comme ça un peu. Mais je bosse un peu avec les mecs de Soupa Chill. Et donc, c'est un groupe ils ont fait un album chez Banzai Lab. Et donc, c'est une espèce de groupe un peu dans la lignée des Herbalizer, celui-là, Quest of Sound, ce genre de truc, des groupes de hip-hop un peu instrumental avec chanteurs et chanteuses, donc un projet que j'aime beaucoup, puis surtout leur producteur Fabien Lilfish, par ailleurs, pareil, c'est un mec, c'est un pote, quoi. Donc on a commencé un peu à bosser sur des trucs ensemble, c'est assez prometteur, donc je pense que ça ira au bout. Après, avec Cognitive, ça fait longtemps qu'on parle d'une collab, on est très proches aussi, donc on verra. Après, Cyril et moi, on a un peu fait du même bois, c'est-à-dire qu'il faut un peu nous...
Nous motiver souvent pour le faire.
Il faut un peu nous mettre sous pression pour qu'on fasse les choses. Voilà, mais quoi qu'il en soit, donc pour répondre à ta question précisément, pour un projet de Prolétaire, oui, définitivement, je suis très largement sur un projet Prolétaire. Il y aura un album de tribute, dans tous les cas, d'ici la fin de l'année, je pense.
Ah oui.
Oui, parce que c'est pareil, il est long time overdue, comme on dit, ça fait longtemps que j'y vais dans les tuyaux, et ça fait 4 ans, je crois, que j'ai sorti le dernier, le numéro 2.
C'est ça.
Et pareil, voilà, j'ai pas mal de matière, j'ai des bons morceaux, j'ai en tout cas des trucs que j'estime être bien. Et puis oui, là, si tu veux depuis Bubble, c'est vrai que là, j'ai une bonne dynamique dernièrement sur Prolétaire. Donc, j'ai vraiment envie de sortir du frais, faire un nouveau projet. Mais c'est pour ça que je mets des pincettes, parce que comme entre Rookie et Life Playing Tricks, où j'ai pris quand même 3 ans, ouais, ou 2 ans, 2 ans et demi quand même, j'ai envie de prendre mon temps, quoi. J'ai ce luxe-là de pouvoir prendre mon temps, et j'ai envie de le faire, parce que tu sais, pour vraiment...
Sortir quelque chose de qualitatif.
Ouais, voilà, c'est ça. Bah, tu vois, moi, alors après, je sais pas, dans ce que je fais, il y a probablement des trucs achetés, évidemment, mais enfin, achetés, ou en tout cas, qui sont moins bien, quoi, par rapport à mes meilleurs morceaux, éventuellement. Mais je sors peu, tu as vu, je produis que des maxis, j'ai jamais fait vraiment d'album. J'ai fait des gros maxis à 8 ou 9 morceaux, et je suis pas tellement un mec de la productivité, quoi. Voilà.
Ouais, mais c'est pas grave, au pire, c'est justement, si ce que tu sors, t'es fier de le faire, c'est le plus important.
C'est ça. Et puis, ouais, il y a clairement ce truc-là. Et puis, il y a des fois, tu sens que t'as besoin d'attendre. Parce que tu sens que, tu sais, t'as des morceaux, mais tu dis ouais, c'est bien, mais non, je le sens pas quand même. Et moi, je marche à l'intuition, quoi. Surtout ça, je marche exclusivement avec à l'intuition, la mienne en particulier. Et c'est comme ça depuis le démarrage, depuis le premier maxi, le Curses, le tout premier où il y a après le Showers. Après le Showers, si j'ai à un certain point, elle aurait pu, par exemple, ne pas y être sur ce maxi.
Ça aurait été dommage pour toi, vu que c'est ton plus gros succès.
Mais je suis quasiment sûr que je n'aurais pas de carrière si je n'avais pas mis sur ce maxi, tu vois. Donc il faut s'écouter. Parce que si tu veux, j'avais fait 2 versions, ou 3, ou même 4 à voir, précédentes du maxi de Curses, avant de sortir la version que j'ai sortie, qui était quand même, il y avait peut-être 2 ou 3 morceaux qu'on a retrouvés sur la version finale. Mais tout ça pour dire, et tu vois, je sentais que, ouais, c'est bien, mais c'est pas encore ça. Et quand c'est bien et que c'est pas encore ça, ben, tu prends le temps et tu retournes travailler et t'attends de te dire, putain, là, je suis content, j'ai envie de le sortir. Voilà.
C'est quand t'as plus trop de doutes que tu te dis, ça vaut le coup, quoi.
Ouais, voilà, même si encore une fois, hein, tu sais,
t'es jamais sûr.
Je suis pas en train. Voilà, t'es jamais sûr, et surtout, je suis pas en train de te dire que je réécoute ce que j'ai fait en me disant putain c'est merveilleux, j'ai fait des trucs. Non, très loin de là. Mais malgré tout, ça correspond à un instant T, à cette réalité, à cette vérité là. Et quand tu fais des albums, faut accepter un moment de pas lâcher ton truc tant que tu le sens pas, mais à un moment donné, faut dire ok.
Je là, prends le risque. Voilà,
faut que je sois capable de le lâcher à un moment donné, sinon tu sors jamais rien. Quoi. Et à un moment donné, de toute façon, moi, l'envie de sortir des choses devient trop grande.
Et concernant, t'as déjà un petit nom en tête pour ce futur album?
Alors, oui.
Mais non, je ne le dirai pas.
Non, non, je peux te le donner parce qu'il est... il est... pas, comment dire, c'est pas un concept de fou qui est enfin, comment dire, c'est un truc qui a, j'ai pas inventé un mot ou un truc, donc je me mouille pas trop en le disant, mais alors mais je te disais, c'est sous réserve de changement parce que c'est pas garanti que ce sera ça à l'arrivée, mais c'est vrai que ce nom-là tourne depuis longtemps dans ma tête, et quand je pense au prochain projet, ça fait, bref, il a souvent été là, et ce serait Director's Cut. Voilà.
Ok, trop bien.
Bon, je t'expliquerai le sens du titre une fois que ce sera sorti, quoi.
Ça marche, et ben justement, peut-être qu'on aura l'occasion de se refaire une interview d'ici là, on ne sait pas. C'est de quoi la vie.
Bah ouais, ce serait avec plaisir en tout cas. Si
ça marche.
En mode promo, quoi.
Ouais. Bah carrément, avec grand plaisir. Et est-ce que tu auras un petit mot pour la fin?
Écoute, je sais pas, peut-être. Non, j'ai juste dire aux gens de faire attention à eux, de leur souhaiter des bonnes choses. Voilà, hein, faut vivre sa vie. je sais pas si c'était quelque chose de musical que tu attendais, mais moi, en ce moment, je suis plein de. Ça, c'est l'effet coronavirus et c'est les effets collatéraux. T'es plein de questions existentielles, métaphysiques. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça a amené des idées de changement de vie et tout, donc pourquoi pas changer de vie, les gars.
C'est ça.
Si tu fais un boulot de merde, que ça te plaît pas, change de vie. N'hésite pas, saute.
C'est plein de philosophie en tout cas, on verra bien comment on changera.
Ouais.
Ça marche. Et en tout cas, merci beaucoup pour les terres d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de t'avoir discuté. Ah, carrément, moi de toute façon, je te suis depuis des années, donc ça fait depuis 2012, je crois, que je t'avais découvert, ou 2013. Donc voilà, c'est un grand plaisir de t'avoir enfin.
Ça fait plaisir d'avoir des mecs qui ont suivi ça depuis le départ, c'est cool.
Carrément. Donc c'est Prolétaire pour Radio Pulse, passe une excellente journée.
Merci beaucoup, à bientôt.
C'était l'interview du beatmaker Prolétaire, encore un grand merci à lui d'avoir accepté cette interview.